trois lignes avant la fin de la page 118, on reprend. On avait expliqué, donc on a commencé à expliquer depuis le début du Perek Membet, depuis le début du chapitre 42. On a ramené la Gemara qui dit que, qui ramène le Pasouk, dans lequel le Pasouk dit, Ve'ata Israël, ma Hashem elokecha shel meimar, ki im leira. Maintenant Israël, qu'est-ce que Hashem demande, qu'est-ce que Hashem te demande? Hashem te demande uniquement de le craindre. Alors la Gemara pose la question, il dit, est-ce que craindre Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de facile? Et la Gemara répond, dit oui, par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est considéré comme quelque chose de facile. Alors on a posé la question, on a dit oui, mais nous, on s'imagine que pour Moshe Rabbeinu c'est facile, mais on parle de nous. Pour nous, c'est pas facile. Alors on a expliqué longuement comment, dans le peuple juif, dans la menorah, on avait sept branches qui correspondaient aux sept rois Israël, sept vergers du peuple juif. Sept vergers du peuple juif qui correspondent chacun à une des midot. On sait très bien qu'il y a sept midot et sept attributs d'Akadosh Baruch Hu, la bonté, la rigueur, etc. Il y en a sept comme ça. Et chaque berger du peuple juif, donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, représente particulièrement une qualité. Par exemple, Abraham représentait particulièrement la bonté. Moshe, qu'est-ce qu'il représente? On a dit que Moshe, lui, sa qualité qu'il représente, c'est la qualité de Da'at. Bien qu'il y a sept branches, mais il y a une branche qui est plus forte que toutes. Il fait même pas partie des sept branches. Le Da'at, il fait même pas partie des sept branches, parce que c'est pas une qualité. Le Da'at, c'est ni la rigueur, ni la sévérité, ça rentre pas dans tout ça. C'est quoi? C'est le Da'at. C'est quoi le Da'at? On a expliqué longuement le concept du Da'at, que le Da'at, c'est pas comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose, ça c'est facile. Bon, ça veut dire on essaie de comprendre, c'est pas difficile. C'est quoi Da'at? Da'at, c'est intériorisé, intégré. Ça, c'est Da'at.
Comment dire les mots intériorisés?
Les Afnim. Et ça, il est bon. Donc ça c'est le travail, d'accord, de Moshe Rabbein. Alors on a expliqué que Moshe, qu'en vérité, une fois que ça c'est le passe-partout, ça c'est la clé passe-partout. Une fois qu'on réussit à intérioriser quelque chose, une fois qu'on a réussi à intérioriser quelque chose, ensuite c'est fini, le Yetzer Hara, il peut plus rien nous faire. La plus grande clé du Yetzer Hara, c'est que le Yetzer Hara, il te dit, écoute, c'est quelque chose que tu connais pas, de toute façon tu sais pas de quoi on parle. Comme j'ai dit, Shabbat, le Yetzer Hara, il dit, fauter maintenant, payer dans 25 ans. Ou dans 50 ans. On verra ce que ça sera dans 50 ans. Maintenant tu fautes. C'est quoi le Da'at? Le Da'at, c'est le fait d'intérioriser, de comprendre que c'est pas de la blague. Alors on a expliqué que ça, c'est la force de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu donne la force au peuple juif. Tout d'abord, chacun de nous, on a ça en nous inné. On a cette force en nous innée. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille, on a cette force de Da'at, de pouvoir intérioriser le concept, un concept spirituel. Ça, c'est premièrement. Et on a expliqué à part ça, que si on a Mechaïm.
Mandi, c'est ce qui est bon. Mechaïm, je sais pas. Anisette pour les enfants.
Bouka.
Boukha.
Et à part ça, on a expliqué que si on a des difficultés à développer ce niveau de Da'at qu'il y a chez nous, alors, à ce moment-là.
Merci bien.
Mechaïm. C'est pas pour nous distraire, la Boukha, c'est pour nous relancer.
Nirnasayin et Atasod. Tu connais bien l'histoire de Rabbi.
Haïtayeb.
Bien
sûr.
Avec la Boukha.
Donc. On a expliqué que, bien que le niveau de Da'at est inné en nous, c'est quelque chose qui est inné chez nous, on n'a pas besoin de travailler pour ça, mais des fois c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'on a des étincelles de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, qui sont représentées par les tzadikim qui s'occupent du Ham Israël. Il y a des tzadikim qui ne s'occupent pas du Ham Israël. Il y a des tzadikim qui restent chez eux à la maison, c'est des tzadikim, mais qui n'ont pas pris pour but de s'occuper du Ham Israël. Les tzadikim qui ont décidé de s'occuper du Ham Israël, tout de suite, ils reçoivent une neshama de Moshe Rabbeinu. Une étincelle de Moshe Rabbeinu. Quel rapport? Parce qu'on a des fois des tzadik nistar qui font des choses pour le peuple juif. C'est pas. Dès qu'un tzadik prend sur soi.
Et ils ont une branche, ils sont un type de roé, en général.
Les
tzadikim, ils prennent sur eux.
Alors, toujours, de manière.
Un type de roé ou pas?
De manière générale, toujours chez les tzadikim, on trouve toujours chez les tzadikim, ils sont toujours attirés vers une branche plus qu'une autre.
Voilà.
Ça, c'est sûr.
Le rabbi, c'est quelle branche?
Beaucoup. Moi, je dis le rabbi, c'est Malchut.
Malchut.
Chez Chabad, on dit que le rabbi, c'est Malchut.
C'est Malchut, c'est l'anglais. Quand on dit que c'est le Mashiach, c'est pour
non,
ça
non, non, pas par rapport avec ça. Depuis toujours, on dit ça. Parce ouais. que c'est le dernier des sept, c'est le septième.
Ah. La lignée des sept.
Ouais. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Je vais rattacher à mon oral.
Non, mais
j'ai développé. J'ai compris. Donc, si quelqu'un a du mal à développer le niveau de Da'at, il doit faire appel à un tzadik de la génération, qui lui, le tzadik de la génération. Il va l'aider parce que comme le tzadik il a en soi une étincelle de Moshe Rabbeinu, qui Moshe Rabbeinu correspond à Da'at, d'accord, ouais. Donc là, il aura plus de punch, il aura plus de facilité à développer ce niveau qui était déjà en vérité chez soi. Ça c'est un premier point qu'on a expliqué. Ensuite, la semaine dernière, on a expliqué un peu mieux qu'est-ce que c'est le concept de Da'at. On a expliqué pourquoi on a besoin de Da'at, et pourquoi surtout dès qu'il s'agit de quelque chose de spirituel, on a besoin de Da'at. On a expliqué que dès qu'il s'agit de quelque chose de spirituel, on a deux problèmes. Premier problème qu'on a, c'est le fait que la Neshama est dans un corps. Le fait que la Neshama est dans un corps, d'accord, et que le spirituel, ça ne lui parle pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec elle. On est dans un corps matériel, et ce qui nous intéresse, c'est pas du tout le spirituel. Donc, premier boulot, c'est quoi? C'est Yegiat Bassar. Ça veut dire fatiguer sa chair. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne t'attends pas à ce qu'après que tu t'es fait un kiff, tu as mangé un bon steak, après ça, tu vas te mettre à réfléchir à Dieu et tout de suite, tu vas y aller. Ça marche pas comme ça. Il faut lâcher un peu du matériel si tu veux arriver au spirituel.
Ça veut dire, tu dis un peu avant d'avoir pris dormir.
Par exemple, d'accord? Ça veut dire, ça c'est Yegiat Bassar. Il faut lâcher du lest. Tu veux récupérer du spirituel, tu veux sentir spirituel, il faut savoir qu'il faut lâcher les kiffs.
Allez, ramène la dent.
J'ai pas dit de tout lâcher, d'accord? J'ai pas dit de tout lâcher, mais...
Monsieur est fier de nous traiter de Mongol. Quand on a le lest, la Mongol fière. Élève.
Donc première fatigue, c'est quoi? C'est la Yegiat Bassar. Premièrement, d'accord, c'est le fait de se fatiguer. De se fatiguer, ça veut dire d'oublier le fait qu'on est dans un corps et d'essayer de sortir du contexte du corps, d'essayer de rentrer dans un contexte spirituel.
D'accord.
Et comme on a expliqué, c'est le même obstacle qu'on a quand on étudie un texte de Gemara ou tout autre texte, tout cours de Torah. Très souvent, au début, pendant les premières minutes, ça ne nous intéresse pas. Donc on a un premier obstacle à enlever, c'est quoi? C'est de se rentrer dans le monde de la Torah de manière à ce que ça commence à m'intéresser. Ça c'est Yegiat Bassar. Ensuite on a Yegiat Nefesh. C'est quoi Yegiat Nefesh? Ça c'est toujours dans le Daat.
Ça mérite moins. Alors, après, pas, hein, ça t'intéresse.
Il faut chercher, ça t'intéresse pas. Il y a toujours quelque chose qui t'intéresse pas.
Ah, tu trouves un sujet qui t'intéresse pas.
Quand t'as déjà compris, le fait de répéter, après ça t'intéresse plus, ça te sort du nez, ça te casse les pieds. C'est quoi Yegiat Nefesh? Yegiat Nefesh, c'est une fois que je suis dans le coup, ça y est, Baruch HaShem, maintenant ça m'intéresse. C'est le fait de rester approfondi sur un même sujet jusqu'à que ça te casse les pieds. Jusqu'à que ça te casse les pieds, que t'en as marre. Ça y est, j'ai compris, laissez-moi tranquille. Et c'est là que ça va commencer à rentrer. Donc deux obstacles. Yegiat Nefesh, Yegiat Bassar. Premièrement, il faut travailler le corps. Deuxièmement, il faut travailler la Neshama. Et le Rav Sinai va donner un très bel exemple. Il va dire c'est comme quelqu'un qui est en prison et qu'il reste plusieurs années en prison. Le problème qu'il a, c'est que petit à petit, il va oublier comment ça se passe dehors. Donc il a deux choses à travailler. Premièrement, il doit travailler de ne pas se faire. D'accord. Premièrement, il doit se travailler sur le fait de ne pas se faire influencer, par le monde intérieur, les autres prisonniers.
Le monde carcéral.
D'accord. Alors après le cours, et la semaine dernière, on m'a dit qu'il y a il y avait une série télévisée il y a des dizaines d'années.
Ah non. D'accord. Ah le prisonnier peut-être.
Le prisonnier, voilà, on m'a dit
dans laquelle. Je ne suis pas un numéro, je suis un omnibus.
Voilà, dans laquelle personne n'arrêtait pas de dire je ne suis pas un numéro, je suis un omnibus. Donc on voit clairement que deux choses, d'accord. Premièrement, le prisonnier doit se travailler pour ne pas se faire influencer par le monde qui l'entoure, premièrement. Et deuxièmement, le prisonnier doit faire un maximum doit essayer de faire son maximum pour se rappeler comment c'était. Pour se rappeler comment c'était. On a une histoire du Baal Shem Tov. Par contre, le Baal Shem Tov, lorsqu'il s'apprêtait à faire il voulait faire sa Aliyah. D'accord. Le Baal Shem Tov voulait faire sa Aliyah. Et bon, du ciel, on lui a montré qu'on n'était pas très chaud pour qu'il le fasse, mais bon, le Baal Shem Tov a quand même voulu insister, parce que pour lui c'est une grande mitzvah, il voulait venir en Eretz Israël, selon le Ramban, venir en Eretz Israël c'est une mitzvah de la Torah, même quand on est en exil. Donc le Baal Shem Tov voulait accomplir cette mitzvah.
Comment s'appelle la fille du Baal Shem Tov?
Edel.
Edel ou Edel?
Ouais. Edel. Surtout qu'il voulait rencontrer aussi le Or HaChaim HaKadosh.
Ah.
Enfin, bon. Donc il voulait aller en Eretz Israël. Mais du ciel, on lui a fait beaucoup d'obstacles. Et à un certain moment, quand il était en route, ils étaient dans le bateau, à un certain moment, il y a eu une tempête. Bien sûr, hein, la tempête était pour lui. Il y a eu une tempête. Et ils se sont retrouvés, ils ont atterri sur une île. Bon, il y avait un peu de monde, mais pas de juifs, rien du tout.
Robinson, quoi. Bon.
Et le Baal Shem Tov, à ce moment-là, il se rend compte qu'il a tout oublié, la Torah. Tout oublié. Rien. Il a tout oublié. Alors il essaye de se rappeler, rien. Rien à faire. Il demande à sa fille qui est avec lui, sa fille Edel lui demande, est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Il se rappelle de rien. Il demande à son chamash qui était également avec lui, ils étaient trois. Il lui dit, est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Il dit, non, je me rappelle de rien, mais par contre, je me rappelle du Aleph Bet. Je me rappelle du Aleph Bet encore. Le Baal Shem Tov lui dit, répète le Aleph Bet. Vas-y, même le Aleph Bet, le Baal Shem Tov avait oublié. Et il commence à dire, Aleph, Bet, Gimel. Et l'histoire raconte comment le Baal Shem Tov s'est mis à répéter Aleph, Bet, Gimel. Il essaye de s'attraper à quelque chose. Et en s'attrapant au Aleph, Bet, c'est comme ça qu'il a tout récupéré. Exactement ce qu'on a rien expliqué ici. Comme le prisonnier en prison. Petit à petit, avec les mois, il oublie comment c'est dehors. Et chaque fois, dès qu'il essaye de se rappeler comment c'était dehors, comment c'était à l'époque, il a du mal. Et chaque fois, il essaye de voir une bribe d'information. Il faut attraper, il faut essayer de s'attraper à cette bribe d'information et rester jusqu'à ce que ça va rester dans la tête, jusqu'à ce qu'on va dedans. D'accord. Donc ça, c'est comme...
Je peux poser une question,
carrément. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait?
Finalement, il est revenu, il a compris que...
Si on a fait une salade, on a trouvé une bête dans la salade, on l'a cuisinée avec la vinaigrette, on peut la jeter?
C'est une question SMS. Si on a...
On a trouvé une bête. Dans. On a fait la salade, on se rend compte quand on va la manger qu'il y a une bête à l'intérieur.
T'as pas cuit, non, c'est bon, tu enlèves
la vinaigrette et tout.
C'est bon, tu enlèves la bête et tout.
Il y a peut-être un peu de la bête dans la vinaigrette.
Ah, c'est vrai?
Non, je rigole.
Il la mange?
Il n'y a pas eu de cuisson, c'est bon. S'il y a une cuisson, ça sera un problème.
Ouais. La question qu'il pose, c'est est-ce qu'on a fait une dica de
quand on vient de taper votre
plat?
Donc, Viesh, alors ça c'est une chose qu'on a expliqué. Maintenant, on a expliqué que. Donc, ça c'est Da'at. Da'at, c'est premièrement, sortir du contexte de ce monde, sortir du contexte matériel. Et deuxièmement, on a dit, c'est quoi Da'at? Deuxièmement, Da'at, c'est essayer de rester attaché à quelque chose de spirituel. Mais le problème, c'est que c'est des bribes d'informations, comme l'histoire que j'ai racontée avec le Baal Shem Tov. C'est un lève bête. Il faut essayer de rester attaché à ces bribes, et là, c'est là que ça va accrocher. Donc c'est Yegia, c'est une fatigue. Et le Baal Shem Tov, l'Admor HaZaken a dit ici, que cette fatigue-là, ça ne va pas être la même fatigue pour tout le monde. Si c'est quelqu'un qui a une neshama très haute, eh ben, il n'aura pas besoin de se fatiguer beaucoup. C'est-à-dire dès qu'il va commencer à essayer de s'attraper à quelque chose de spirituel, tout de suite s'accroche. Mais si c'est quelqu'un qui a une neshama basse, il peut passer des mois comme ça à réfléchir. Et chaque fois, il aura des fois quelques bribes, et pop, ça partira. Un peu de lumière, ça s'en va. C'est très très dur. Surtout, il a dit l'Admor HaZaken, si on a fait des averot. D'accord. Surtout si on a fait des averot, notamment les averot autour de la Brit Mila. Là, dans ce cas-là, on dit que ça fait un bgam, ça fait un défaut, ça fait une détérioration dans la neshama, qui fait qu'après, dès qu'on a envie de réfléchir à quelque chose de spirituel, on a beaucoup de mal. Mais, umikol makom, donc je reprends dans les mots maintenant. Umikol makom. Bekoshi, alors, page 100. Page 100 chez Yaakov.
Ah,
David.
Français.
Umikol makom. Bekoshi ou bechoska. Même si c'est une personne qui a fait des averot, même si c'est une personne qui a une neshama qui est très basse, et qu'il a du mal, ça veut dire que, je sais pas si ça vous arrive des fois, on essaie de réfléchir à quelque chose de spirituel, mais on sent que ça accroche pas, on sent que ça nous intéresse pas, on sent qu'on en a rien à faire. Ça peut arriver. Des fois, on essaye de réfléchir à un coup, on essaye de se sentir
c'est
concerné.
Pas qu'on en a rien à faire. Il semblerait qu'on a un pôle
d'intérêt. Ça nous concerne pas.
On a moins de concentration.
Ça me dit rien.
Ouais.
J'aimerais bien que ça me concerne. J'aimerais bien, mais ça me concerne pas. Ça me dit rien.
Il faudrait que ça nous prenne la tête.
Alors ça peut être pour deux raisons. Ou parce qu'on a fait d'Averot. Ouais. C'est à cause de nos Averot. Donc les Averot ont fait un défaut dans notre Neshama. Ils ont encrassé notre Neshama. Donc il faut la décrasser. Ou bien, parce qu'on a une Neshama, comme la majorité des Neshamot de notre génération, qui est une Neshama qui est basse. Donc, il faut travailler. Et nous dit l'Admor HaZaken, mais il nous garantit, et quand on va amener des psukim pour le prouver, que si une personne fait un effort, mais attention, il va expliquer que c'est un effort qui est one time. Une fois qu'on fait cet effort une fois, après les fois d'après, c'est beaucoup plus facile. Allez, c'est expliqué. Bekoshi ou bechoska, shetit chazek, meod machashato, be omed vegi araba. Lorsque la personne fait un effort, une grande fatigue, c'est très très dur. Les amis, bidoulat hachem shak, de là, d'essayer d'approfondir dans la grandeur de Dieu un moment. C'est pour ça que dans la Chassidut, on explique, en vérité, c'est écrit dans la Gemara déjà, que les Chassidim Arishonim, les premiers Chassidim, avant de faire la Tfila, ils essayent de réfléchir à quelque chose de spirituel.
D'accord?
Alors, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font pendant 10 minutes, mais il y a des gens qui réfléchissaient pendant des heures. Ils réfléchissaient des heures à quelque chose de spirituel. Pourquoi? Pour s'évader de ce monde matériel. Exactement, Da'at, le passe-partout. Comme Shamrou Razal, comme les Chachamim, ils ont dit, Yagati Umatsati Tamin. Mme Razaken, il dit que, je te garantis que si tu vas essayer, tu vas te fatiguer, tu finiras par arriver. Mais c'est une fatigue. Ok, dirti, on s'arrête ici. Im tevakshena ka kesev et kamatmonim tevakshena. Qu'est-ce qu'il dit dans Michelet, le roi Salomon? Il dit, im tevakshena. Si tu vas rechercher la Torah, ka kesev comme de l'argent. Ça veut dire que si tu vas courir derrière la Torah comme on court derrière l'argent. Ve kamatmonim techapsena. Et tu vas la rechercher. Tu vas la rechercher comme un trésor qui est enfoui sous terre. Astavin irat Hashem, alors tu comprendras la crainte de Dieu. Voilà ce qu'il dit le roi Salomon. Quel rapport avec la crainte de Dieu? Pourquoi on parle de... Alors tu comprendras la crainte de Dieu. C'est quoi cette histoire? De quoi on parle ici? Explique l'Admor HaZaken. Je répète le pasouk. Si tu vas rechercher la Torah comme de l'argent, et tu la chercheras, enfin tu la déterreras, d'accord, comme un trésor, là tu comprendras la crainte de Dieu. Explique l'Admor HaZaken. Pour nous montrer qu'on sait que c'est difficile. Pirouche. Comme un homme explique le proverbe, de la même manière qu'un homme recherche dans le sol, on lui dit, écoute, dans ce terrain-là, il y a un gros trésor. D'accord ? Un gros trésor. Bon, alors, tu peux me dire que... Alors, des fois, on va te dire, par exemple, on va dire, écoutez, monsieur, dans ce champ-là, vous avez 20% de chances de trouver un trésor. Bon. Il va chercher, d'accord ? Un mois, deux mois, trois mois, un an, il va rien trouver. Bon, il dit 20%, écoute, hein, 20%, je lâche. Là, il va expliquer à Morazaken, c'est le roi Salomon qui dit, il dit que le trésor est là à tous les coups. Il y a un trésor. De la même manière que quand on sait qu'il y a un trésor, c'est sûr qu'il y a un trésor, il y a quelqu'un qui l'a caché, tu dis, c'est moi, j'ai caché un trésor, je suis sûr qu'il est là. Quand, je sais pas moi, si par exemple, quelqu'un a fait tomber un diamant. Il a fait tomber un diamant dans le sable, il sait qu'il a fait tomber son diamant. On fait la Gmara Nagi. D'accord ? Qui est derrière chez Mirapes Adam Matmon, Veotsar Atamun Betartiot Aaret, sur Chofer Acharav Biegia Atsuma, qu'il va chercher ce diamant avec une grande fatigue. Car Tsarir Lachapor Biegia Atsuma, le Galot Otsar Shalira Tchamaï Matsafun ou Moustar de Binatalech El Kolechad Misraël. Donc il nous dit, de la même manière que. Des fouilles.
Lachapor, c'est des fouilles, faire des fouilles.
C'est creusé.
Ouais, c'est ça, mais c'est comme ça qu'on dit les fouilles en Israël.
Des fouilles archéologiques. Ouais. Donc, de la même manière que ça veut dire l'Admorazaken nous confirme que c'est pas facile, que c'est difficile, et qu'il faut rechercher ça comme un trésor. De la même manière qu'un trésor qui est enfui sous terre, ça prend du temps, mais on sait qu'il est là, mais ça prend du temps. De la même manière, ça va pas être facile d'éveiller. En vérité, on a tous en soi le niveau de Da'at, on a tous en soi le niveau de crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais vous avez dû remarquer que c'est un point qui revient très souvent dans le Tania, qu'en vérité, on a ça déjà en nous. Il suffit de le dévoiler. C'est un point qui revient très très souvent dans le Tania. On peut même dire que le Tania est basé sur ça. Je l'ai pas lu, mais celle qu'on voit, on voit que le Tania est basé grandement sur ce concept-là. Qu'en vérité, on a beaucoup de choses en nous. Ça veut dire que j'ai pas encore étudié tout jusqu'à la fin, comme il faut. Avec le cours.
C'est incroyable. Hein. Je t'autorise à avoir des opinions.
De quoi déjà. Donc. Carte.
Hier, il parlait de mettre mon dit, etc.
Peut-être que tu dis au cinquième niveau. Hein. Ou Moustar Vinatalev chez Kol Adam Israël. D'accord ? Donc Moustar Vinatalev chez Ubi Prinat Madrigat chez Mala Meazman. Ça, c'est un niveau qui est plus haut que le temps. On raconte qu'il y a une fois une histoire. Hein. Une fois une histoire, il y a une fois un groupe d'étudiants qui n'étaient pas religieux, qui sont venus voir le rabbi. Et il y avait un étudiant qui était un peu chutzpa, d'accord, un peu effronté, qui a posé la question au rabbi. Il a dit, à quoi ça sert un rabbi ?
C'est une bonne question, c'est pas la route pas.
C'est une bonne question, non, mais bon, il faut...
C'est la façon dont il a présenté,
oui. Peut-être. C'est-à-dire qu'il vient au cours de la semaine dernière.
Non, ça veut dire qu'un chassid, jamais il aurait eu le toupet, même quelqu'un de religion en général, il aurait jamais eu le toupet de poser la question.
Ouais. Non, en tout cas, pas la personne
concernée. Pas la personne, d'accord.
Poser la question, oui, mais c'est pas la personne. Quoi.
Alors, il a posé la question au rabbi, il a dit, à quoi ça sert, c'est quoi le hymne d'un rabbi, à quoi ça sert un rabbi.
D'accord,
à quoi ça sert un rabbi. Et le rabbi, il a répondu comme ça, il a répondu par une parole du Baal Shem Tov. Il a dit, c'est écrit Kitiyu Atem Eretz Refet. Le pasouk dans Malachi nous dit que Dieu il dit que Kitiyu Atem Eretz Refet, que le peuple juif, on est une terre de convoitise. Et il dit comme ça. Il dit que de la même manière que dans une terre Eretz Refet, c'est ce qu'explique le commentaire, c'est une terre qui a des trésors qui sont cachés dedans. Et des trésors. Donc de la même manière, a expliqué le rabbi, les juifs, d'accord, si je ne me trompe pas dans l'histoire, le rabbi, là, si je me rappelle bien, le rabbi il a dit. Je ne vais pas vous expliquer ce que je fais, mais je vais vous expliquer ce que fait un rabbi en général. Il a dit que « Kitiyu Atem Eretz Refet », ça veut dire quoi « Eretz Refet » ? Ça veut dire que dans chaque juif, il y a des trésors. Il y a des trésors, mais ils sont enfuis. Et il a expliqué, le rôle du rabbi, c'est quoi ? C'est de montrer à un juif, de montrer au juif où est son trésor, comment il doit chercher son trésor. Comme on a expliqué plusieurs fois, le rôle d'un rabbi, c'est pas forcément pour nous apprendre des divrei Torah. S'il apprend des divrei Torah, c'est encore mieux. S'il nous enseigne des divrei Torah, c'est encore mieux.
Donc, il en faisait beaucoup moins.
Oui, bien sûr, c'est évident. C'est quoi le but ? C'est quoi le but ? C'est quoi le rôle d'un rabbi ?
C'est un révélateur. Hein ?
C'est un révélateur. C'est lui qui va nous aider à révéler le secret qu'il y a. C'est exactement ce qu'on a dit ici. Vechamat monim techapsena. Quand en vérité, on a en nous des trésors extraordinaires. Comme il dit ici, des trésors qui sont même plus hauts que le temps. Ça veut dire, c'est pas des trésors qui dépendent du temps. Et dire, écoute, aujourd'hui, je me sens bien, alors bon, je vais bien servir Dieu. Demain, écoute, demain, si je me sens pas bien, je servirai pas bien Dieu. Non, ça marche pas comme ça. On a des trésors en nous qui sont intemporels, qui ne dépendent pas du temps. Ils ne dépendent pas du temps, les malam et azman. Et il suffit de pouvoir les développer. Ve ia ira tivit amsuteratanal. Rak, shekede, shetavolide, maase, prinat iratret, liot surmera, maase, du bon marchava. Donc, on a ça en nous. C'est quoi le problème ? C'est qu'on a du mal à la mettre en application. On a du mal à la réveiller. צריך לגלות אותה ממצפוני בינת הלב של מעלה מהזמן, להביאה לבחינת מחשבה ממש במוח, להמקבה מחשבתו. Ça veut dire comme ça. Il dit que, je ne sais pas comment on explique en psychologie, je n'ai pas les termes en psychologie, mais il dit qu'il y a des choses qu'on a dans notre subconscient. D'accord, qu'on a des, il y a des choses qu'on a au fond de nous, dans notre subconscient, mais qu'on ne réfléchit pas dans notre marchava, c'est-à-dire dans notre pensée dévoilée. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de trouver des mots, on n'est pas capable de trouver des mots pour les exprimer. Mais on le sent, il y a des choses qu'on sent. D'accord. Et quel est le rôle du da'at? Le rôle du da'at, c'est de sortir quelque chose du mode subconscient et de le mettre au mode conscient. Le mettre au mode conscient, c'est-à-dire que je peux trouver des mots pour exprimer ça. Ça, c'est le da'at. Ça veut dire qu'en vérité, en nous, on a déjà ça. Mais c'est quoi le rôle du da'at? C'est de développer quelque chose qu'on a déjà en nous et d'essayer de trouver des mots. D'essayer de, avec la crainte de Dieu qu'on a au fond de nous, mais que dans les faits, on fait rien avec, parce que c'est parce qu'elle est enfouie au fond de nous, on va essayer de créer avec ça une crainte tangible, une vraie crainte d'Akadosh Baruch Hu. Dans la pensée, parole et action. Une vraie crainte. Comme il dit ici, l'ifrinat marchava mama chez mémoire. On va essayer de développer ça dans la pensée d'un homme. Les amis va marcher à toi, mais je de mamash. HTT, que Poulatamako. Donc je vais un peu vite parce que c'est, la semaine dernière, j'ai bien préparé le terrain. HTT, Poulatamako, à la poêle mamash. Daïnou liot, sourmera va asetov, marchava dibour maase. Mipna hacham, atsofé, mubit, mazin, makshiv. Au fond de moi, je sais qu'il y a un Dieu qui me regarde et qu'il y a un Dieu qui fait attention à tout ce que je fais. Mais le problème, c'est que je n'en suis pas conscient. Dans mon subconscient, je le sais, mais dans les faits, je ne suis pas conscient. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de faire une avéra. Quel va être le passe-partout? Le passe-partout va être le da'at, ça va être de prendre conscience de ce que j'ai au fond de moi. L'yad sourmera va à cette œuvre, ça veut dire de s'écarter du mal. Mais pourquoi je m'écarte du mal? Parce que je me rappelle qu'il y a Dieu qui est en train de me regarder. À Sophé ou Mabit, qui observe, qui regarde, ou Mazin ou Makshiv, qui entend et qui écoute, ou Mevin al-Kolma à Seou, et qui comprend tout ce que je fais, qui regarde tout ce que je fais. D'accord? Ou Bochen Tilyota Velibo, comme on a expliqué au début du chapitre 41, Dieu voit ce qu'il y a au fond de nos pensées, de notre cœur. D'accord? Il sonde, il sait très bien ce qu'on a au fond de nous. Ça veut dire que Dieu, on ne peut pas l'arnaquer. C'est pas comme un autre homme qu'on peut être toute sa vie religieux, mais en vérité, au fond de soi, va savoir ce qui se passe. D'accord? Dieu, on l'arnaque pas. Ou Bochen Tilyota Velibo. Et ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu, ça, c'est le rôle du Da'at. C'est développer la force de Irat Hashem qui est en nous. La force de Irat Hashem qui est en nous, qui fera que ça va pas être seulement quelque chose que au fond de moi, dans mon subconscient, je sais qu'il y a un Dieu et qu'il faut le craindre, mais je vais le craindre. Moi, Marazal, comme les Chachamim m'ont dit, Istakel Bishlocha Dvarim. Quand on regarde Marazal explique ça, c'est merveilleux. Il dit, qu'est-ce qu'on a étudié dans Pirkei Avot? Il dit, Istakel Bishlocha Dvarim, regarde trois choses, d'accord, et tu viendras pas à la Vera. De quoi tu dois te rappeler?
Ain Bata.
Ain Roa.
Veozen Shomat.
Un œil. Qui regarde, d'accord, et un oreille, une oreille qui t'entend, et la suite dit Vechol ma'atzecha v'sefer nirtavim, et toutes tes actions sont écrites sur un livre. Alors moi, il y a une question qu'on se pose, d'accord, comment le fait que je sais qu'il y a un œil qui me regarde et qu'il y a une oreille qui m'entend, d'accord, comment le fait que istakel, c'est-à-dire que je vais essayer de faire attention à ça, comment, grâce à ça, en atabali dechet, je n'arriverai pas à la faute? Pourquoi? Quel rapport? Là, avec son expliquant, on a la réponse. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Istakel bishlocha dvarim. On sait que tu sais au fond de toi que Dieu il te regarde, que Dieu il t'entend. Mais fais attention à ça, réfléchis à ça. Essaye de prendre conscience de la chose. Que c'est pas de la blague. C'est pas un jeu. Dieu il nous regarde, Dieu il voit ce qu'on fait. Dieu il est là en train de nous regarder, il entend ce qu'on fait. Et quand on va réfléchir, on va prendre conscience, et comme on expliquera après, une fois on a besoin de le faire dans la vie, après c'est plus facile. D'accord? Quand on réfléchit à ça, après c'est beaucoup plus facile de jeter le Yetzarara, de renvoyer le Yetzarara quand il nous propose une avéra. Vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, avec toutes les technologies d'Internet, les téléphones et tout ça, on a plus de facilité à comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde, il a un œil partout, qu'on ne peut pas se sauver. Aujourd'hui, on sait que dans le monde, on ne peut pas se sauver. À l'époque, peut-être il y a un siècle, peut-être qu'on pouvait se sauver. Rien qui fait une bêtise dans un pays, il peut se sauver, il va dans un autre pays. Mais aujourd'hui, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on sait que c'est pratiquement impossible de se sauver. On sait que le monde entier est devenu une seule entité. Et en train de venir en tout cas une seule entité. Ça, sur ça, la technologie peut nous aider à comprendre, pour Irat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, si déjà avec des ordinateurs et avec la police, on voit qu'ils sont capables de voir tout ce qui se passe dans d'autres pays, à plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu. Je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être plus de facilité à réaliser ça qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, d'accord? À l'époque, on avait du mal à percevoir que même si je me sauve, d'accord? Même si je me sauve, Dieu est toujours là. C'est pour ça que le roi Salomon, il dit, j'ai oublié le pasouk, un pasouk dans lequel il dit Ve'ana mipanecha evrach. Il dit que où je me sauve, d'accord, tu seras toujours là. Où que j'aille, tu seras toujours là.
Où que j'aille, il y a des chèques.
Donc, ma marazal, donc voilà ce que les rachamim m'ont dit. Je regarde ces trois choses-là. Qu'est-ce qui se passe?
D'ailleurs, l'Ishtakel, il me semble que c'est une forme pronominale.
C'est-à-dire, ça veut dire, c'est enfin, pas
c'est
ça.
Bien, c'est bien une introspection.
Bien sûr, exactement. On n'a pas dit, on comprend qu'il y a trois choses. Parce que ça, on sait. Un juif, il sait, depuis qu'on est petit, on nous l'a dit qu'il y a Dieu qui nous regarde. On sait ça. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Ishtakel, mais sentir, c'est pas suffisant. Istakel, ça veut dire qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose dans ton subconscient. Il faut réfléchir et trouver des mots pour ça. Vous savez, à quel moment on sait que quelque chose a quitté notre subconscient, est venu dans notre conscient, c'est quand on arrive à trouver des mots. Et quand c'est un sentiment qu'on n'arrive pas à trouver des mots, ça veut dire qu'on ne l'a pas vraiment développé. C'est au fond de nous, c'est certes, il est au fond de nous. Mais dès qu'on réussit à trouver des mots, un sentiment, à le formuler, là, ça veut dire qu'il a quitté le mode subconscient, maintenant il est en mode conscient. Et c'est ça ce qu'on nous demande pour la Yirat Hashem. Pas simplement de se rappeler, de dire oui, je sais au fond de moi qu'il y a un Dieu qui me regarde, un Dieu qui m'entend. Non. Il faut prendre conscience de ça. Il faut se le dire. Il faut réfléchir et s'il faut réfléchir à ça pendant une heure, et bien il faut réfléchir à ça pendant une heure. Vegam kenlo de mutagouf. Bien que tu me dis que il faut regarder trois. Il faut dire que Dieu, il a un œil qui regarde, FBI, d'accord, il a une oreille qui entend, etc. Vegam kenlo de mutagouf. D'accord. Bien que. Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme du corps, n'a pas de forme d'un corps. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu a une oreille qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu a une oreille qui entend
pas dans le et un de...
D'accord, pas seulement ça, le Morazaka m'explique encore autre chose. C'est-à-dire qu'on veut nous apprendre encore autre chose. Il va le dire ça aussi.
Comment on appelle ça? Bravo.
Les Sacher et Taozen.
Bravo, je connais la France, hein.
Donc il dit comme ça. Gam ken lo demutagou.
Quand on dit que Dieu il est jaloux.
Bien que, donc certes, on comprend ce qu'on va, on va expliquer ce que Gamliel a dit, Gamliel a raison, on va expliquer ça plus tard, hein, que, en vérité, pourquoi on utilise ce langage-là, c'est parce que, on veut utiliser anthropomorphisme, d'accord, on veut utiliser le langage des hommes, et pour les hommes, un homme, de quoi il a peur? Il a peur de quelqu'un qui le regarde et quelqu'un qui l'entend. Comme on avait dit, on avait ramené de Rabban Yochanan Ben Zakkai qui avait dit à ses élèves, il avait dit que je vous souhaite que vous ayez la crainte de Dieu de la même manière que vous avez la crainte de l'homme. Alors ils ont dit quoi, Atkan, c'est tout ce que tu que Rabbi, c'est tout ce que tu nous souhaites. Il a dit non. Il a dit Teda, Shadam Overavera, Omer Shelo Irani Adam. Lorsqu'un homme fait une Avera, il demande que personne ne me voit. Ça veut dire que de quoi l'homme a peur? L'homme a peur de quelqu'un qui nous regarde et quelqu'un qui nous entend. Donc bien sûr que si on nous dit que on doit prendre conscience qu'on a un œil qui nous regarde, une oreille qui nous entend, c'est pour qu'on prenne conscience que c'est pas de la blague. C'est quelque chose de réel. Ariad Rabba, akol galuy veyadu alefanav, beyeter set le enkes, miriyat a ayin ushmiat haozen al derech mashal. Il va expliquer Yad Morazakani comme ça, que quand on te dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme d'un corps, mais ça veut dire qu'il est plus haut qu'un corps. C'est-à-dire que si déjà un corps il est capable d'entendre et de voir, à plus forte raison Dieu qui est spirituel, à plus forte raison que lui aussi peut entendre et voir. Et regardez ce qu'il explique ici. Rak al-derech machal ou al-derech machal, que mo adam ayoda ou margish basmo. C'est très fort, j'ai jamais vu ce commentaire là ailleurs. Il dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu il a une oreille qui entend et qu'il a un œil qui regarde? Ça veut dire quoi? Il dit de la même manière, comme un homme, ayoda ou margish basmo, qui sent et qui sait en soi-même, Kol machenase venifal, tout ce qui se passe, bechad mikol remach ivarav. C'est-à-dire comme ça. Si quelqu'un me donne un coup sur mon bras, j'ai pas besoin de regarder, de voir que cette personne m'a donné un coup, elle a dit, il m'a donné un coup, alors je dois avoir mal. Ça comme ça. Je sens ce qui se passe dans mon corps. Yodea ou margish beatmo. Je sais ce qui se passe, sans même le voir, et je sens ce qui se passe. Que mon corps ochom. Par exemple, d'accord, quand il y a ma main qui a chaud. On met du feu à côté de la main. J'ai pas besoin de voir qu'il y a du feu à côté de la main pour savoir que j'ai chaud. Je sens. Tout de suite, je sens. C'est un réflexe. Va filou chom chez betziporni raglav al derech machal im nirva be'our. Et même, alors il y a certains endroits dans le corps qui sont moins sensibles que d'autres. Par exemple, les ongles. C'est pour ça que quand on coupe les ongles, ça fait pas mal. D'accord? Mais même un ongle, quand on brûle un ongle, écoutez bien, quand on brûle un ongle, Dieu préserve, sur le corps de l'homme, ça fait mal. On sent.
C'est par transition.
Non. Parce que l'ongle, tant qu'il est attaché au corps de l'homme, il transmet, on sent ça, c'est même pas besoin qu'on te l'explique. C'est même si quelqu'un il te fait, tu ne vois rien du tout, il te fait comme ça, en cachette, briquet, tu sens. D'accord? Même si c'est pas propre, mais quelqu'un il a des longs ongles.
Les sensations, elles peuvent être
sur un... Tant que c'est attaché au corps de l'homme...
Tu sens, mais sans savoir, mais c'est ton...
Ok, bah, peut-être la main aussi, elle attache au corps de l'homme. Ça change pas.
Tu brûles, ça tu sens aussi.
Ah, là, je sais pas.
Parce que le long... D'ailleurs, tu sais, quand on le voit que quand l'ongle il prend un coup, alors que l'ongle il est encore attaché à notre corps, ça fait mal. Mm-hmm. Quand l'ongle il prend un coup, quand je sais pas, quand il y a des longs ongles qui se fait un coup, tant que l'ongle est attaché, ça fait mal, ça peut faire très très mal. Parce que tant qu'il est attaché, ça fait mal. D'accord ?
Oui.
Bon, c'est un exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qu'on a dans notre corps, d'accord ? Tout ce qu'on a dans notre... Peut-être, ça change pas, en tout cas on le sent. On n'a pas besoin qu'on te le dise.
Le corps c'est trompeur parce qu'on peut avoir des fois des mauvaises sensations. Ouais. La sensation elle peut être trompeuse des fois.
Oh alors ?
Bah non, c'est pas vraiment juste quoi. La sensation c'est... Des fois tu peux te tromper.
Mais ici il veut donner un exemple pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu a une oreille qui entend et un œil qui voit.
Par exemple, quelqu'un qui est dans un supermarché.
Oui, j'ai compris.
Il y a des caméras partout.
J'ai compris ce que tu veux dire.
Là tu me dis ouais, tu vois tout ce qui se passe parce qu'il y a des caméras partout. Si déjà le sujet du supermarché voit tout, alors...
Je vais finir l'idée, tu vas voir tout ce qu'il veut dire. Va filou chom chez Betty Porniraglav, Adir Machel Mirva Beor. D'accord ? Donc même la chaleur qu'il y a, s'il y aurait de la chaleur qui viendrait dans les ongles des pieds, d'accord, on sentirait quand même si on se brûlait par le feu, d'accord. Donc de la même manière, alder machal im nirvebeor, v'chen ma'utam v'atsmutam, v'chol ma shemitpael ba'em, yodeh ou margish b'mocho. De la même manière, tout ce qui se passe dans le monde, Akadosh Baruch Hu le sent comme si ça faisait partie de soi. Je vais essayer peut-être d'amener un exemple pour essayer d'expliquer ça, parce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les tzadikim. Dit que le tzadik Rabbi Israël de Rougine, il a dit la chose suivante. Écoutez bien ce qu'il a dit. Amen ici le Rav Tenzaltz, il a dit que le Rabbi Israël de Rougine, il a dit comme ça, il a dit celui qui ne sent pas la douleur de toute femme qui est en train d'accoucher dans un rayon de 300 000, c'est-à-dire dans un rayon de 600 km, d'accord, il ne peut pas être Rabbi. Une expression. Pour dire quoi ? Pour dire qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui sent.
Ultra sensible.
D'accord ? D'ailleurs, on l'a déjà dit ce concept-là, que le tzaddik, il a une neshama générale, mais c'est pas simplement au niveau de la neshama, apparemment, c'est même au niveau du corps. C'est-à-dire, il ressent la douleur. Et s'il n'a pas ça, c'est que c'est pas un rabbi. C'est pas un tzaddik. Ça, c'est un tzaddik. Un tzaddik, il ressent la douleur du Am Israël.
Il doit avoir une vie difficile. Hein.
Ah oui.
Oui, c'est pour ça,
c'est pour ça que la Gemara dit que les tzadikim...
Il a souffert toute la journée. S'il a une capacité de recevoir ou de ressentir, il a quoi un récepteur qui a comme ça une capacité à...
C'est très très
on la guide, même 100 km, ou même que sa vie. Bonjour les dégâts.
C'est pour ça que la Gemara a dit que les tzadikim, ils ont beaucoup de issourim. Elle dit que les souffrances que les tzadikim, ils ont, c'est à cause des avonot. C'est à cause d'Avonot que le peuple y fait. Et c'est pas simplement que comme le peuple y fait une Avera, alors Dieu va faire le tzadik va dire bon je prends sur moi. Non, c'est que le tzadik ressent l'impact de l'Avera. Il ressent l'impact de l'Avera, il voit ce qui se passe, il sent ce qui se passe, il voit ce qui est en train de se passer. En compte, il faut une histoire avec l'Admour Emtsaï. L'Admour Emtsaï, donc c'est le fils de l'Admour Hazaken, donc le deuxième rabbi de Lubavitch. Donc comme tous les rabbis, il avait l'habitude de recevoir.
Le milieu de quoi alors ?
Parce que c'était le fils du milieu.
Entre les deux.
Deuxième sur six.
Il avait trois enfants. L'Admour Emtsaï.
Sept. Ouais. Du milieu sur sept, ça fait pas deux.
C'est le deuxième enfant. Le deuxième enfant sur trois. Donc, on l'a plus l'Admour Emtsaï dans la lignée. Dans les enfants.
Et c'est lui qui a pris la suite.
Oui. Donc, on l'a plus l'Admour Emtsaï. Et donc, il avait l'habitude, comme tous les rabbis, d'accueillir les gens en Yéchidout. En Yéchidout, ça veut dire en entrevue privée. Et donc, à chaque fois, d'ailleurs, c'est très très fatigant, les Yéchidout. Comme on expliquera tout de suite pourquoi. Alors une fois, donc il était dans une ville une fois comme ça, donc il a accueilli les gens Yichidout. Bon, c'est un petit peu comme dans tous les courants, on fait ça. Dès qu'un quelqu'un vient dans une ville, il accueille les gens, ils viennent, ils leur parlent de leurs problèmes. Et à un certain moment... Et
d'ailleurs, il n'y a pas besoin qu'il leur parle, il sait déjà.
Plusieurs personnes sont rentrées, et à un certain moment, le rabbi a demandé, il a dit, ça y est, on arrête les entrevues. Bon. Et vraiment, il s'est mis à pleurer, il a demandé à ce qu'on ferme sa porte et qu'on le laisse tranquille pendant plusieurs heures. Il sort de sa chambre et il fait Mincha de Yom Kippour. Bon, on l'a vu, il a fait Mincha de Yom Kippour. Vraiment, on voyait qu'il était pas bien du tout. Bon. Il sort de sa pièce, il fait Mincha. Et après, il se met à dire un discours chassidique sur le verset qui dit dans Echa, Chomad bat Tzion oridik anachal dima. Pour dire, donc, c'est un verset très triste de Echa quand on parle de la destruction du Beit HaMikdash. Les chassidim, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. D'un coup, comme ça, en quelques heures, d'accord, le rabbi est passé d'un statut joyeux, il est devenu très triste, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et c'est seulement quelques heures plus tard que le rabbi leur a raconté. Le rabbi leur a raconté, il leur a dit, bon, c'est pas la dernière personne qui est venue me voir, mais une des personnes en avant m'a raconté un problème.
Pour faire incognito.
D'accord. Ouais. Et il lui a dit, il leur a dit, écoutez bien ce qu'il leur a expliqué. Il leur a dit, je vous explique comment un rabbi il fait quand quelqu'un vient en yichidout. Quand quelqu'un vient en yichidout et il raconte son problème au rabbi, qu'est-ce qu'il fait le rabbi à ce moment-là? Le rabbi à ce moment-là essaye de trouver ce problème-là chez lui. Il essaye de trouver ce problème-là chez lui. Alors peut-être pas à la même échelle, d'accord? Mais il essaye de trouver le même problème chez lui dans ses neshama. Et là, l'Admour Emtsai a raconté, il a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a raconté quelque chose de tellement grave qu'il n'a pas réussi à le trouver chez lui. C'est quoi le chose de tellement grave? Alors c'est une maladie, j'ai oublié le nom de cette maladie. C'est quelqu'un qui était parti, qui avait eu des relations avec une femme qui était décédée. Il y a un nom, c'est une maladie qui a un nom. D'accord?
Oui.
Dieu préserve. Voilà. Et c'était tellement c'était quelque chose de grave, d'accord, qu'il a pas réussi à trouver ça chez lui. Et il a dû réfléchir plusieurs heures, la famille Tradium qui pour, c'est très très dur. D'accord? Jusqu'à ce qu'à la fin, il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé qu'une fois il avait chanté un nigoun, regardez bien le niveau d'un tzadik, une fois il avait chanté un nigoun, que normalement un nigoun, ça doit amener it alut anefesh, d'accord, ça doit faire que la neshama. De faire que la neshama doit s'élever. Et la neshama ne s'est pas élevée comme il faut. La neshama ne s'est pas élevée comme elle devrait s'élever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a profité de quelque chose, il a tué un nigoun, si vous voulez. Bon, à son niveau, je ne sais pas comment il a compris ça. Moi, pour vous dire, et comment il est parti chercher pendant plusieurs heures pour essayer de trouver. C'est ça ce qui fait un tzadik. Le tzadik, avant de répondre à la question de quelqu'un, il va essayer de trouver ce problème chez lui. C'est pour ça que le yichidout, c'est toujours très très fatigant pour un rabbi. Très fatigant. Pour un rabbi, pour un tzadik en général. C'est très très fatigant parce que il doit essayer de se mettre à la place de la personne. Donc d'accord. Essayer de retrouver quelque chose.
Et alors une fois qu'il a trouvé ce qui correspond,
Pardon
après.
Oui, c'est ça ce que je dis.
Ouais, après. Une fois qu'il a trouvé ce qui correspond chez lui, ouais. D'accord, donc il va, de la même manière qu'il va trouver comment il aurait arrangé ça chez lui,
comment lui il aura d'accord, arrangé ça, d'accord.
Donc il va dire, voilà la technique pour arranger.
D'accord.
Mais c'est très très dur. On
avec un niveau de concentration différent.
Il y a peut-être des choses où il dit ça, c'est le même principe. Je ne veux pas arranger.
C'est fêlé, ouais.
Il faut être sadique.
Oui.
Non, moi d'après je comprends. Enfin, c'est pas. Si c'est le même concept.
Tu comprends avec Bina ou avec Dahak?
Je pense comprendre. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sadique, d'accord? Le sadique, il ressent ce qui se passe. Et quand quelqu'un vient lui raconter un problème, le sadique va essayer de sentir le problème de l'autre chez soi. Et tant qu'il ne l'a pas fait, il ne pourra pas répondre. Donc ça, c'est seulement un exemple que je vais vous donner. Pour expliquer avec ça, le Morazakan veut expliquer quand on nous dit que Kadosh Baruch Hu entend, quand on nous dit que Kadosh Baruch Hu voit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement pour que nos oreilles, c'est pas simplement pour parler aux hommes parce que les hommes, c'est la chose qu'ils comprennent. Non. C'est pour nous montrer encore autre chose. Pour nous montrer que quand on fait une Avera, c'est pas que Kadosh Baruch Hu, il a des châteaux, d'accord? C'est un grand roi qui a des châteaux. Et bon, moi, j'abîme un des châteaux. Non. Kadosh Baruch Hu, c'est une seule entité. Et à Kadosh Baruch Hu, le fait qu'il voit ce qui se passe, c'est pas parce qu'il a des caméras qui sont installées partout, donc il voit ce qui se passe. Non. À Kadosh Baruch Hu sent ce qui se passe de la même manière que moi je sens quand quelqu'un me pince, j'ai pas besoin qu'on m'explique qu'il m'a pincé, c'est automatique, c'est comme si que j'ai blessé le corps d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Ayn Roa Vozen Shoma.
Donc, est-ce que Kadosh Baruch Hu, éventuellement, il fait la même chose que le tzadik pour la personne qui vient
de
voir?
Aïe, je sens,
j'attendais la question. Je sais pas.
Je me suis dit pourquoi il a pas posé.
Alors, il y a un élément de réponse qui viendra par la suite. J'attendais la question. Hein.
Non, j'étais obligé. C'était
une question qu'il fallait arriver. J'attendais la question.
Voilà. Et ça, c'est une question qui aboutit à un cul-de-sac.
Alors.
Parce que toute erreur est l'expression d'une faiblesse. Alors, on peut pas imaginer.
On aura un élément de réponse plus tard et la réponse sera a priori non. Parce que chez Dieu, c'est pas comme ça.
Oui, mais en même temps, comme
Dieu,
il est au-dessus de toute logique.
J'ai dit plus tard. Plus tard, c'est plus tard. J'ai dit, quelques lignes, 15 lignes plus tard.
Pas beaucoup, 15.
D'accord.
Dans 3 semaines.
V'chol ma shemitbael. V'chol ma shemitbael. Yodea ou margish bim... V'chol ma shemitbael mehem. Yodea ou margish bimokho. Ou ke'en yedia zoal derech machal. Donc là, j'avance un peu vite, donc je ne sais pas si est-ce que vous avez la ligne.
Ouais, bien sûr.
Alors, ou ke'en, la ligne qui commence, ou ke'en.
C'est 4 lignes avant la fin.
Voilà, c'est page 104, 3e, dernière. Page
34.
Ou ke'en yediazol derech machal, de la même manière que l'homme sait ce qui se passe dans son corps, mais sais même pas qui c'est, on va, c'est il sent ce qui se passe dans son corps, ça fait partie de lui. Donc dès que quelqu'un il me pince, j'ai pas besoin qu'on m'explique qu'il m'a pincé, j'ai déjà senti qu'il m'a pincé, c'est un réflexe. De la même manière, Yodé Akadosh Baruch Hu Kol Anifal Bechol Anivraim, Akadosh Baruch Hu sait tout ce qui se passe, Bechol Anivraim, chez toutes les créatures, Elionim Vetartonim. Il y en a qui vont dire, bon Dieu il s'occupe du Gan Eden, nous en bas, il nous laisse faire. Non, c'est... Il peut pas ne pas voir, il peut pas ne pas sentir ce qui se passe en bas, parce que on fait partie du corps de Dieu. C'est pour reprendre l'exemple du corps. Avec ça, Edmond Razaken explique pourquoi on prend l'exemple du corps. On fait partie du corps de Dieu. Donc quand on fait mal au bras, c'est tout le corps qui sent. C'est pas dire, non, écoute, il n'y a que le bras, bon, le pied reste tranquille, on a fait mal qu'au bras maintenant. Non. Quand tu fais mal au bras, c'est tout le corps qui a mal. Liot kula mushpa mimenuit barer, que moshe katub, comme c'est écrit, ki mimcha hakol. Comme le pasuk qui dit dans Divrei Hayamim. Le pasuk qui dit qu'il mimcha akol, que de toi, tout provient. Tout. Ah, le Gan Eden, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Tout fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Tout est intégré dans Akadosh Baruch Hu. Vegam, vezeu shekatuv, avec ça on va comprendre ce qui est écrit aussi, dans la tefila de Moussav de Rosh Hashanah, il me semble que dans la tefila de Sfarad on dit ça. Vegam kolayetsur le nichad mimeka. On le dit?
Oui.
D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? On dit vegam kolayetsur le nichad mimeka, ça veut dire on dit que toute créature, n'est pas écarté, je sais pas comment on peut traduire nihad. Nihad ça veut dire exterminé normalement, ça veut dire mais n'est pas dissocié, Razak, mimcha de toi. Moi je suis Katav Rambam, comme Maïmonide a expliqué. Ça en vérité c'est un des concepts les plus compliqués du judaïsme, ce concept qu'on va expliquer tout de suite. On va simplement dire qu'il existe, mais c'est un des concepts les plus compliqués. Moi je suis Katav Rambam, comme le Maïmonide a dit, donc il a écrit dans l'Ilkhot Yisod de la Torah, les lois des fondations de la Torah. Et les sages de la Kabbalah sont d'accord avec ça, que Moshe Katavaramak Bepardes. Comme Rabbi Moshe Cordovero a écrit dans son ouvrage qu'on appelle le Pardes. C'est un des ouvrages les plus répandus sur la Kabbalah. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Rambam, Maïmonide? Il dit, Shebeyedi at Atzmo Kaviachol, Yodea Kolan Ivrahim Anitsaim Amitat Imatso. Il dit comme ça, que Akadosh Baruch Hu, le fait qu'il sait ce qui se passe dans le monde, d'accord? C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu sait ce qui se passe dans le monde, parce que Akadosh Baruch Hu a un savoir. C'est comme, imaginez-vous que moi je suis ici dans ma salle rue Paul Enfer, et j'ai ici un écran devant moi, et cet écran va me dire ce qui se passe à New York. Bon, mais cet écran, ce qui se passe à New York ne fait pas partie de moi. Ça veut dire qu'il y a moi, et il y a ma connaissance. Il y a moi qui peut fermer mes yeux, et il y a moi qui ouvre mes yeux, et quand j'ouvre mes yeux, je vois ce qui se passe à New York dans un écran. D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez Akadosh Baruch Hu, explique Maïmonide, qu'Akadosh Baruch Hu, comment il sait ce qui se passe dans le monde, comment il sait ce qui se passe dans les créatures, c'est en se connaissant à soi-même. Donc le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple du corps. L'exemple du corps. Que comment je sais que ma main a mal, d'accord? C'est pas que parce que j'ai vu avec mes yeux que ma main a mal, ou quelqu'un m'a dit que quelqu'un s'est pincé, alors je dois avoir mal maintenant, ouais. Que c'est pour ça que j'ai mal. Non. J'ai mal parce que Yediat Atmo, comme je connais mon corps, comme je sens mon corps, donc toute personne qui touchera à n'importe quelle partie de mon corps, tout de suite je vais le sentir. C'est de la même manière, c'est comme ça chez Akadosh Baruch.
Ça veut dire qu'il y a le corps et...
Voilà, rak, bien. Rak seulement. Chez Machalze et Noéla, Gamliel, j'ai dit qu'on allait y arriver. Rak chez Machalze et Noéla, les Sacher Ataozet. Ce Machal qu'on a expliqué, le Machal du corps,
il a ses limites.
Il a ses limites. Bien que c'est un très bon Machal. Le Machal est excellent puisque c'est un Machal dans lequel on comprend que, de la même manière que moi, j'ai pas besoin qu'on m'explique. Ouais. Quand on a touché mon corps, je sens, ça fait partie de moi. De la même manière, Dieu explique Maïmonide, quand Dieu se connaît, en se connaissant à soi-même, il sait ce qui se passe dans le monde, puisque le monde est soi-même. Mais il dit que c'est un machal qui a ses limites. Pourquoi? Le machal ne ressemble pas au nimshal, ça veut dire que la parabole ne ressemble pas, enfin l'image ne ressemble pas à ce qui est imagé, d'accord? Je ne sais pas comment on dit en français, le nimshal.
Le sujet.
Non mais en hébreu ça revient, il y a Machal et Nimshal, c'est la même racine.
Exemple.
L'image est ce qui est imagé. Bon,
l'image et l'antécédent, normalement.
Ouais, mais ça on n'a pas, c'est pas comme dans l'hébreu.
Comment?
C'est pas comme dans l'hébreu.
Non, tu ne comprends pas.
Le Machal et le Nimshal, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, on va dire que l'image qu'on a donnée, qu'on a expliquée, on a essayé de
comparer... Les deux valeurs de X ne tournent pas sur le même valeur de X.
On a essayé de comparer Dieu à notre corps, sur ce concept-là. C'est un machal qui n'est pas bon à 100%. Et avec ça, on aura l'élément de réponse à ta question, Yaakov.
En chimie, ouais.
Pourquoi?
Là.
Ah, une isomérie, non?
Isomère, pardon.
ça nous avance pas plus.
Aval.
Moi
non plus.
Ou les mentionner.
Aval Behemet, en la machal de Mélin Michel Klal. Le machal ne ressemble pas du tout à Nimshal. Pourquoi ? Qui nefesh à Adam, parce que l'âme d'un homme, a filou à sichlit va elokit. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué quelques chapitres en arrière ? D'accord ? On avait expliqué qu'on a en nous l'âme divine, on a en nous l'âme animale, c'est celle qui veut faire des bêtises, ouais. Et on a l'âme vitale. Jacob, tu veux nous rappeler c'est quoi l'âme vitale ?
Bon, on le rattache au principe à l'âme animale.
C'est quoi l'âme vitale ?
C'est l'âme, c'est dans l'énergie.
Ça veut dire
c'est
quoi ?
Le principe de...
Par exemple, vitale. L'âme qui me donne la force de parler. La parole, ça n'a rien de négatif. D'accord ? Donc c'est une troisième âme qui, elle, me donne la force de parler. Et après, cette, la force de cette âme-là va être dirigée ou vers le bien par l'âme divine, ou vers le mal par l'âme animale. Et regardez bien ce qu'il va expliquer l'Admor HaZaken. Pourquoi on ne peut pas comparer à 100% avec le corps ? Avec ça, on va bien comprendre le da'at. « Qui nefesh Adam apilu asichlit va'elokit, i mitpa'elet mim ora e aguf v'tsaharo, mechamat itlapshuta mamash ben nefesh echionit emlubeshet beguf mamash. » Je veux dire comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi Adam ? C'est quoi un homme ? Adam,
c'est la terre.
D'accord ? C'est la jonction, d'accord ? C'est l'union entre l'âme divine et l'âme animale. Et maintenant, on a rajouté aussi l'âme vitale. Très bien. Regardez bien ce qu'il explique ici. Si on fait mal au corps, quand si quelqu'un fait mal à son corps physique,
Est-ce qu'on touche l'âme ?
Est-ce que l'âme est touchée ?
Est-ce que c'est lié ?
La réponse est oui.
C'est l'âme de fond.
La réponse est oui.
Ça dépend quelle partie
que Akadosh, quand Akadosh Baruch Hu a fait, écoutez bien, quand Akadosh Baruch Hu a fait que l'âme divine et l'âme animale sont liées, ça veut dire qu'ils sont liés pour le bien,
pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur et pour le pire. D'accord ? Pour le meilleur, ils sont liés. Ils sont liés pour tout. D'accord ? Ils sont liés pour tout. Et donc, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on va faire du mal au corps, la Neshama va elle aussi ressentir. Comme disait le Maguide de Meserich, il disait plus que ça. Il disait un petit trou dans le corps, il disait en Yiddish, a klein eloch in em gouf, is a greiser eloch in de neshama. Comme ça il disait. Un petit.
Greiser eloch. Chez nous on dit Zarbakbira. On dit pas greiser eloch, on dit Zarbakbira.
Il disait qu'un petit trou dans la neshama. D'accord ? Un petit trou dans la neshama, dans le corps, pardon, est un grand trou dans la neshama. Et ça, ce détail-là, d'accord ? Un grand pas pour l'humanité. Ce détail-là, dans ce détail-là, on ne peut pas comparer à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, dans le détail de notre corps, on a dit que dans le corps, tout le corps, ça veut dire que la neshama, c'est très fort ce qu'on est en train d'expliquer ici. Que l'âme divine, bien que l'âme divine n'est pas matérielle, on n'a pas besoin de lui expliquer qu'on lui a fait mal à son corps. Vous suivez ce que je suis en train de dire ?
Oui.
L'âme divine, on n'a pas besoin de lui raconter que tu sais que quelqu'un t'a fait mal à ton corps. Elle le sent, puisque l'âme divine et l'âme animale sont devenues une seule entité. Très bien. Ça, c'est pas valable chez Kadosh Baruch Hu. Ce principe-là, que puisqu'on est lié, donc tout ce que tu vas me faire, donc automatiquement si tu me fais mal, j'aurai mal. Et puisque l'âme divine et l'âme animale sont liées, donc si tu fais mal à l'âme divine, ça fera mal à l'âme animale, et vice versa. Ça, ce principe-là, on l'a pas chez Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous on va faire des avérotes, ça fera pas mal à Dieu. C'est compris. Mais le concept, nous on a l'exemple qu'on a amené avec le corps, c'est de dire que.
Ça va pas le toucher.
C'est lié.
Voilà. L'exemple qu'on a amené avec le corps, c'est quoi ? C'est de dire que l'âme divine n'a pas besoin qu'on lui explique que le corps a eu mal. Elle le sent, ça fait partie d'elle-même.
Quand on dit Dieu, il ressent, mais il souffre pas.
Voilà. Il va donner des psukim, etc. Aval akadosh baruch hu, mea akadosh baruch hu, eino mitpael chas veshalom im ora e aolam. Akadosh baruch hu, d'accord, il n'est pas impressionné.
Dieu, il est énervé, tout ça.
Pareil, charer d'Aozen, ça n'existe pas. En vérité, ça ne change rien. On va mettre des psukim tout de suite, c'est une bonne question que tu poses.
Au final, il détruit le monde et tout ça, il n'était pas content. Donc,
on rentre dans laquelle Dieu il est énervé a priori. On va voir, c'est par rapport à un certain niveau. On va parler de ça. Aval Akadosh Baruch Hu, enomit pael chas veshalom im ora e aolam veshinuyav. Akadosh Baruch Hu, d'accord, n'est pas impressionné, n'est pas dérangé, d'accord, n'est pas touché, im ora e aolam veshinuyav, par tout ce qui se passe, par les événements qui se passent dans ce monde.
Et leur
changement. D'accord. Velo me aolam atmo. Akadosh Baruch Hu, d'accord, ne pas, ça veut dire ce qui va se passer dans le monde ne va rien changer chez Kadosh Baruch Hu. Chez Kulam, Enam Poalim Boshinu Ichas Veshalom. que le monde, et ce qui se passe dans le monde, oui mais attention, parce que si, on est, si le machal avec le corps était bon à 100%, normalement ça aurait dû lui faire quelque chose.
Oui, non, mais c'était pas possible, c'est ce qu'on avait dit à un moment. Oui,
donc avec ça explique Maïmonide, et ça, ça c'est la chose qui explique Maïmonide, c'est une chose qui fait partie des choses les plus compliquées que dans le judaïsme.
Il explique pas. Hein.
Non, il explique pas.
Il le dit, c'est tout.
Hein. Il le dit, on va pas le comprendre. Voilà. Il dit que ce qu'il comprend...
Qu'est-ce que vous voulez pour quelqu'un qui est, aujourd'hui, quelqu'un qui est anesthésié, pas totalement juste, à un certain niveau d'anesthésie. Chez le dentiste, il sent, mais il a pas mal. Il peut ressentir sans avoir le fait que ça lui fasse du mal.
C'est toujours pas un bon machal.
De la douleur.
C'est toujours pas un bon machal.
De la douleur. On parle du problème que ça fait quelque chose.
C'est toujours pas un bon machal parce que dans ce cas-là, ce qu'on aurait dû dire, c'est que il a mal et en même temps il a pas mal. Parce que ça veut dire qu'il doit sentir. Il doit sentir, sa neshama doit sentir qu'on est en train de lui faire mal.
Non, ce sont, pas, on va dire, dans le corps humain, ce ne sont pas les mêmes capteurs ou les mêmes niveaux de réception. Je reçois un message, tant que ce message il avait un certain niveau d'électricité, eh ben, ça fait une information qui monte au cerveau.
Ouais.
Si le niveau monte un peu plus, l'information elle monte, mais elle est connectée à ce qu'on appelle la douleur.
Justement, ça je vais vous expliquer. C'est que, on n'est pas en train de...
C'est un inhibiteur, c'est pas un coup-circuit.
C'est ça, puisque l'effet disparaît.
En vérité, ça existe, mais ça n'a pas le...
Il va te calmer.
Voilà. En vérité, on sent, les récepteurs, ils sont simplement pris par d'autres choses. Voilà, c'est tout.
Ouais.
Donc, c'est un inhibiteur, ça prend momentanément la place.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire, on sent, mais ça fait rien. Nous, normalement, un coup, on le sent, mais ça ne nous fait pas de mal, on va dire. Le niveau augmente, et là, c'est connecté à une autre dimension.
Donc, on ne sent plus le mal.
Comment ?
Donc, quand on est anesthésié, on ne sent plus le mal.
C'est ça, on n'a pas la notion.
Chez Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça quelque chose qui est incompréhensible. Et Maïmonide, enfin, c'est pas compréhensible, Maïmonide dit, celui qui le comprend, il le comprend.
Ah.
Moi, j'ai pas compris.
Dort pas cette nuit.
Non, peut-être que tu vas comprendre. Regardez bien ce qu'il dit. Dans votre exemple de l'anesthésie, c'est comme si vous direz que j'ai mal, et en même temps, ça me fait pas mal. Il y a un problème.
Non, j'ai pas mal.
Pourquoi? Si, j'ai mal.
Non.
Il faut que je sente le mal.
Non, je ne remonte pas.
Non, mais c'est
voilà.
Non, j'ai compris. Mais justement, c'est pour ça que je dis que l'anesthésie, c'est pas un bon exemple. Parce que dans l'exemple de l'anesthésie, j'ai pas mal. Chez Akadosh Baruch Hu, si je reprenais le même exemple, j'aurais dit que Dieu, il a mal, mais ça lui fait pas mal. C'est pas possible, il y a un problème. Ça veut dire qu'il a mal, mais il n'y a pas les symptômes qui sont liés au mal.
Non, il reçoit l'information.
Non, il a mal. C'est incompréhensible.
C'est
incompréhensible.
Il a mal, mais ça fait pas mal.
C'est écrit Bechol Tsaratam Lotsar. Alors, c'est écrit que dans tous les malheurs, comme ça c'est écrit.
L'eau, mais la Medalef ou la Medvav?
Non, l'eau, la Medvav, oui, je sais.
Il y a un livre
Saratam, l'autre, mais il y a aussi le Limoud qui dit la Medvav.
La Meloa et la Medalef.
La Medvav aussi. Il y a aussi la Medvav qui dit que l'autre Sar, que c'est Akadosh Baruch qui sent le mal.
Voilà.
Il y a aussi.
Il y a le Limoud avec la Medalef aussi.
Oh, oui, il y a les deux. C'est vrai, il y a les deux. Il y a le cri et le cri.
Il y a le cri qui est.
La Gemara a dit qu'on utilise les deux.
Les deux, exactement.
D'accord. Donc il dit, alors justement, c'est pour ça, qu'est-ce qu'il dit ici? Ça, c'est...
Alors qu'est-ce que c'est? Alors maintenant on reste sur quelle idée même qu'on comprend pas.
Ouais.
Juste pour voir si un jour on peut la comprendre. Ouais. Parce que je sais qu'un jour il va se réveiller et dire j'ai compris. Et on va aller voir la mode imbécile. Peut-être c'est demain matin d'ailleurs. Alors c'est quoi le Inyan?
Le Inyan.
Juste pour remettre les données.
Le Inyan, on peut pas le comprendre. Le Inyan, il est que.
Ça ne peut pas nous découvrir.
Oui,
tout
non, ça, on peut pas le comprendre. Comme il dit, regardez. D'accord. Le Midrash Rabbah, il dit comme
on
ça.
Peut,
il dit.
Chercher,
il dit.
Voilà, oh là là. Mais alors,
faut pas chercher à le trouver, c'est pas.
Rabbi David, hein. Ah, il a dit si on trouve, on cherche, on trouve, hein.
Il a dit. On trouvera d'autres trésors entre celui-là.
Ah.
Le Midrash Rabbah, il dit Hu mekomo shel olam, ve'en haolam mekomo. Il dit comme ça. Il dit que Akadosh Baruch Hu est l'endroit du monde. Et le monde n'est pas son endroit. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, c'est impossible.
On peut.
D'accord.
Si on peut.
Non.
Si,
écoutez bien, écoutez-moi ce que j'entends dire. Dans mon exemple, bon, regardez bien, il va le dire, Rav Morozakan, il dit « Ve'ine kedela skilze etef besichlenu, gvar et erichu chachme ahemet besifrehem. » D'accord. Pour bien comprendre ça, d'accord. Les chachme ahemet, ça veut dire donc tous les chachamim, donc dans tous les livres, notamment comme le livre de Maïmonide. Maïmonide explique ça. Moi, tout récemment, on a recommencé à étudier les Maïmonides, donc j'ai récemment réétudié encore une fois les lois des fondements de la Torah. Et je peux vous dire que, on lit ce qu'il dit Maïmonide, on comprend ce qu'il veut dire, d'accord? On comprend comment il te dit que ça existe, d'accord? Il te dit que Dieu, il a en même temps, il nous sent et en même temps il nous sent pas, mais on comprend pas comment c'est possible. Ça veut dire qu'on n'a aucune manière de se l'imaginer.
D'accord.
On peut le comprendre, on n'a pas le date, pour reprendre le... Papa! Maintenant, Maïmonide dit que quand une personne arrive à monter à un certain niveau spirituel, quand il quitte le matériel, il peut arriver à commencer à comprendre cette notion.
Mais je pense qu'un père, il peut en prendre avec son fils.
Pardon ?
Par exemple, des fois, l'enfant, il se casse la figure, il se fait mal. Donc le père, il sent que c'est... il s'est fait mal quelque part, ça le touche. En même temps, il est content parce qu'il sait que c'est une grande leçon pour
lui. Non, mais c'est ça le problème. C'est qu'en même temps, c'est les deux choses contradictoires.
Oui,
en même temps, le père, il a de la peine.
Oui, en même temps, il est content.
D'accord. Et en même temps, il a jamais eu de peine. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a changé chez lui.
Il est content.
Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que tu dis. Ça, c'est deux sentiments l'un profil pour mon colloque.
Là, c'est un sentiment.
C'est un sentiment et un autre. C'est pas la même chose.
Là, on ne parle pas de sentiments
du tout. Il faut approfondir.
Je pense pas qu'il trouvera un exemple matériel. Il n'y aura pas d'exemple matériel. Maïmonide dit qu'il n'y a pas d'exemple matériel. Maintenant, si tu es plus fort que Maïmonide, pas d'accord.
Non, sérieusement.
Non, ça va, mais lui, c'est ananas, algabé, ananas.
Non, si tu peux trouver, ça veut dire, par contre, quand une personne...
Même s'il est petit, mais il peut voir très loin, il est capable. J'ai fait que des éloges, j'ai pas dit des mauvaises choses.
Il a entendu ananas, il a eu peur.
Ananas,
c'est
bien ananas, j'ai dit.
Donc ça c'est un des grands paradoxes sur lequel est basée la Kabbalah. Je veux dire que d'un côté, Akadosh Baruch Hu est impressionnant entre guillemets de ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire que ce qui se passe dans le monde ferait un changement chez Dieu a priori, oui. Puisque Dieu sent ce qui se passe.
Il pleure, on dit pleure.
Voilà, Dieu il pleure, s'il pleure, ça veut dire qu'avant il pleurait pas, maintenant il pleure.
Ouais.
Et d'un autre côté, tu me dis que tu peux faire ce que tu veux, comme on ramènera des psaumes qui m'apprennent, qui diront que ça lui fait rien du tout. Ça lui fera rien du tout. C'est un paradoxe, c'est pas possible. Nous on comprend pas. C'est pas possible. Alors c'est un mytho dans ce cas-là. Si tu me dis que quelqu'un... D'accord. Oui, c'est un mytho. Excusez-moi. Quand quelqu'un, il me raconte quelque chose qui me fait de la peine, et que je pleure, et qu'au fond de moi, ça me fait rien, ça veut dire que je suis un mytho. Dieu te dit, non, Dieu, c'est pas un mytho, il pleure, et en même temps, ça n'a rien changé chez lui.
Oui.
C'est pas possible, il y a un problème.
C'est un peu je vais.
Oui, oui.
Donc c'est pour ça que...
Oui,
à la limite. Il dit que... Kvar, et je conclue avec ce point, monsieur David.
Oui.
D'accord. Kvar et Richou Chachmei Ahmed Besifrey. Il dit, si tu veux comprendre, d'accord, il y a beaucoup des sages de vérité
de littérature,
qui en ont parlé. Ar Kol Israël ma mini bne ma mini. Mais quoi qu'il en soit, d'accord, quoi qu'il en soit,
croyez
que tu
frères,
le comprennes ou que tu le comprennes pas,
croyez mes frères.
De toutes les façons, le peuple juif, on croit à ça. On croit à ça. À quoi on croit? On croit au fait qu'Akadosh Baruch Hu, en même temps, quelque part, on lui fait du mal, et en même temps, on lui change rien. Blishum Hakirat Sechel Onoshi. Le peuple juif, on croit cette chose-là, hein, même sans devoir faire des recherches, sans devoir faire des recherches et arriver à cette conclusion par notre cerveau. Veomri, mais on dit, Atawach le Nivra Olam Roule, Kanal Perekra. Je m'arrête ici. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 20? Dans le chapitre 20, on a expliqué la chose suivante. On a dit que le rapport qui est entre la Kadosh Baruch Hu et le monde, c'est comme... C'est un exemple seulement, mais avec ça, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. L'exemple qu'il avait donné à Morozaka dans le chapitre 20, ça va nous aider à essayer de comprendre un petit peu ce qu'il veut dire ici.
Uh-huh.
Il a expliqué dans le chapitre 20, hein, il a dit, on va essayer d'imaginer quand une personne sort une parole de sa bouche. Combien de milliards de paroles on sort de notre bouche dans notre vie?
Oh.
Beaucoup, très bien. Donc cette parole-là provient d'un Kohar Hadibur. D'un Kohar Hadibur, c'est-à-dire d'une force en nous, qui nous donne la possibilité de parler, qu'on va développer depuis qu'on est enfant, et qu'après, ben, on va pas s'arrêter, on va parler. Mais on va essayer de comparer, et écoutez bien ce qu'il avait expliqué de Moïse dans le chapitre 20, on va essayer de comparer une parole, prenez une parole qui vient de sortir de ma bouche maintenant, un mot, et essayer de comparer ce mot-là, ou cette syllabe, par rapport à toute la masse de paroles que je vais dire dans ma vie. Et pas seulement ça, par rapport au fait que je peux parler autant que je veux, et que même le jour où je vais m'arrêter de parler, c'est pas parce que j'ai plus la force de parler. C'est parce que mon corps va partir. Mais la force, le corps à Dibourg, il est toujours là. Donc si on essaierait de comparer une parole, ouais, une syllabe, par rapport, pas avec toutes les paroles, plus que ça, par rapport au potentiel de pouvoir parler.
Ça tend vers zéro.
On n'arrive à rien du tout. Et il explique, il est là-bas dans le chapitre 20, il dit, c'est seulement un exemple, et c'est l'exemple le plus loin qu'on peut aller avec notre cerveau, pour essayer de s'imaginer qu'est-ce qu'on est par rapport à Kadosh Baruch
Hu. Ah, pas mal ça.
Mais on est toujours pas bon parce que on n'arrive jamais à zéro. On arrive à beaucoup de chiffres après la virgule, mais c'est jamais zéro. Zéro, on n'arrive pas. C'est pour ça que le cerveau en vérité il peut pas comprendre. Pour comprendre, il faut quitter le matériel.
Alors c'est histoire de.
Mais on comprend un petit peu.
Rabbi Emuler alors, il faut comprendre la salaire Dieu dans la crainte. Il faut d'abord comprendre comment on est petit, sans qu'on arrive à la crainte de Dieu.
Exactement le mot de Shabbat, Chazak. D'accord. Donc canal Perekraf. Donc je conclue son explication, on a eu quand même beaucoup de détails aujourd'hui. D'accord. Je conclue ce qu'on a expliqué aujourd'hui. On a expliqué... Allez, messieurs, on conclut. On a expliqué la Gemara Zaken, on a répété ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Que c'est quoi le dat? Le dat, c'est une fatigue, la fatigue du corps. Ça veut dire ne t'attends pas qu'après un bon steak, tu vas te mettre à sentir Dieu. Il faut donner. Il faut lâcher du matériel. Donc il y a bassar, c'est-à-dire d'abord se fatiguer matériellement, physiquement, essayer de chercher le spirituel, et à part ça, yegiat nefesh, ça veut dire essayer de se concentrer sur quelque chose de spirituel. Donc deux choses, premièrement, quitter le matériel, comme l'exemple de la prison. Premièrement, quitter le matériel, deuxièmement, essayer d'attraper un maximum de spirituel. Comme mamash, l'histoire du Baal Shem Tov, vraiment c'est exactement ça. Aleph bet, il va essayer de s'attraper au Aleph bet, et par ça on va tout retrouver. Ça c'est dat. Dat, ça veut dire quoi? Dat, ça veut dire essayer de réfléchir à quelque chose de spirituel. On a écouté un cours, mais on sent pas que ça nous a parlé. Vous allez écouter. Donc aujourd'hui, par exemple, on a eu beaucoup de choses dans le cours. Vous allez rentrer chez vous, essayez de prendre une idée du cours, et essayez de réfléchir, jusqu'à ce que vous sentez que l'idée vous parle. Qu'on a intériorisé l'idée. Ça, c'est dat. Et ça, c'est le passe-partout. Comme on conclura la semaine prochaine, Bezrat Hashem, une fois qu'on a ce passe-partout, le Yetzirah, il peut plus rien faire. Alors, on a expliqué après que c'est un travail qui est pas facile, c'est un travail qui est difficile. C'est un travail qui peut s'apparenter à la recherche, à des fouilles qu'on va faire dans le sol pour chercher un trésor. Personne n'a dit que c'est facile. Plus notre neshama est basse, et plus on a fait d'averot, et plus ce sera difficile. Mais qui dit difficile, ne dit pas que c'est pas faisable. Comme dit la Gemara, il y a gatim ou matatitamin. On peut y arriver. Ça c'est le concept de dat. Ensuite, on a expliqué que donc dat, qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire dat? On a expliqué le concept que dat, c'est quoi, hein? En vérité, qu'est-ce que c'est dat? Donc rappelez-vous, on a dit que dat, c'est il faut quitter le matériel et rentrer dans le spirituel. Mais après, le point qu'on a expliqué beaucoup plus aujourd'hui, c'est qu'on a expliqué que dat, c'est prendre quelque chose qui est en nous, dans notre subconscient, et le rendre conscient. C'est ça ce qu'il faut retenir de ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est quoi dat? Dat, le concept de dat, c'est prendre quelque chose qui était au mode subconscient et le rendre conscient. Prendre la ira qui est au fond de nous, et faire qu'on va réaliser que c'est pas de la blague, qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est ici en train de nous regarder. Après, on a ouvert une parenthèse qu'on a refermée. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Kadosh Baruch Hu nous regarde, que Kadosh Baruch Hu nous entend? Ça veut dire qu'on fait partie du corps d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qui se passe, il voit ce qui se passe, de la même manière que nous, on sent ce qui se passe dans notre corps. Mais, on a dit que ce machal avait ses limites. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dans le corps, si la Neshama sent ce qui se passe dans le corps, et automatiquement elle sera affectée par ce qui se passe dans le corps. Et si le corps souffre, la Neshama va aussi souffrir. Chez Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. C'est un paradoxe. En même temps, il sent ce qui se passe dans le corps, donc il sent ce qui se passe chez nous, mais en même temps, ça ne lui fait rien. Donc c'est un paradoxe qu'on peut pas réellement comprendre dans le monde matériel. Mais tout ça, c'était une parenthèse, d'accord? Tout ça, c'était une parenthèse.
Oui, parce que sinon, ça sert à rien de comprendre ça.
Si, bien sûr. C'est une parenthèse pour expliquer que, on a expliqué que c'est quoi la ira. La ira, c'est de s'imaginer que quand on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un œil qui regarde. D'accord? Et que c'est une oreille qui t'entend, c'est pas de la blague, c'est du réel. C'est pas quelque chose qui est au subconscient. C'est du réel, c'est du conscient. Il faut essayer de réfléchir à ça que c'est pas de la blague. On a ici Big Brother qui est en train de me regarder. D'accord? Ouais. Il est là en train de me regarder, il est là, c'est pas de la blague. Maintenant, tu peux le croire ou ne pas le croire, mais il est là en train de me regarder. Ça, c'est une droit. Ça, c'est dat. Dat, de comprendre, de réaliser, d'intérioriser que... On pense ça réellement avec un émet. C'est vrai ce qu'on est en train de te dire. C'est pas du pipeau. Dieu est en train de te regarder.
Alors?
Dieu est en train de nous regarder.
C'est ce qui fait que tu...
Et là, on expliquait, pas seulement que Dieu est en train de me regarder, mais Dieu sent la vera que je suis en train de faire, de la même manière que moi, je sens quand quelqu'un il me pince mon bras.
D'accord.
Ça fait partie du corps d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la ira. Ça, c'est le dat.
Ça pose problème avec la
Torah. Avec ça, vous comprenez comment on va comprendre ce que la Gemara a dit, que par rapport à Moshe Rabbeinu, dès qu'on a le niveau de dat, dès qu'on a réussi à intérioriser, là, à ce moment-là, c'est très facile d'y rattacher. Comme on a dit, Istakel Mishloshat Vari Venata Bali Dechet. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand une personne prend conscience du fait qu'il y a un œil qui le regarde, il y a des yeux qui l'entendent, automatiquement, il ne viendra pas à la Vera. Parce qu'il aura peur d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il a peur d'un homme.
Et pourtant, il y a eu la faute du Baudor.
Et alors?
Ah ben, c'est pour avoir la crainte, ouais, c'est...
T'as raison. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile.
Non, c'est faisable. Ça devrait être facile, au contraire.
Non, pas du tout. Au contraire.
Que si jamais ce dat, t'as pleinement conscience que Hachem est là et qu'il regarde et qu'il écrit et qu'il voit, etc.
Oui.
À ce moment-là, c'est facile d'avoir peur.
Oui.
Or.
Pourtant, comment ils ont fait pour la faute du
Torah, il n'y avait pas pire.
T'as raison.
Pire que ça.
Comme dat. T'as raison. Ben, ils ont eu le Tzara.
Ah. Donc, il y a un autre élément.
C'est pas seulement ça, elle pose une meilleure question que ça. Ils avaient Moshe Rabbeinu.
Il reste 100 chapitres.
Ils avaient Moshe Rabbeinu.
En plus, ils avaient Moshe Rabbeinu.
Il était pas là.
Non, là, Moshe Rabbeinu.
C'était pour ça en passant. Hein. Parce qu'ils n'avaient pas le Daas. Moshe Rabbeinu, il est parti, ils ont perdu le Daas, donc ils ont fauté.
Oui, d'accord, mais là, alors, ce sera encore pire aujourd'hui, nous. Non seulement il est parti sur la montagne, mais
nous, aujourd'hui, on a hérité ça de Moshe Rabbeinu.
Voilà.
Bon. Les littéraires vont prendre le rattrapage.
Donc avec ça, c'est Daas. Daas, c'est rendre conscience qui est subconscient. C'est très difficile, c'est pas facile.
Ça c'est, voilà, c'est du Freud.
D'accord. C'est très difficile, mais on peut y arriver. Non, personne.
Le bruit,